Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, l'épidémiologiste Catherine Hill, va nous aider à y voir plus clair sur la réalité de la situation sanitaire en France à quelques jours de la réouverture des lieux publics. Va-t-on trop vite? Y a-t-il un risque de reprise épidémique? On en parle moins, c'est vrai, en ce moment, et pourtant le risque est là. On en parlera donc avec elle dans quelques minutes. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. On évoquera cette nouvelle tribune des militaires anonymes qui se cachent derrière. Est-ce bien là le rôle de l'armée? On en débattra avec les grandes voix. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson sur le vrai bilan de François Mitterrand, de la culture pour tous. Et puis 19h20, dans le Club des idées, justement, l'héritage François Mitterrand. Qu'en reste-t-il aujourd'hui, 40 ans après le 10 mai 81? Qui était vraiment d'ailleurs l'ancien président? Pourquoi la classe ouvrière s'est-elle aujourd'hui détournée de la gauche? On en parlera avec notamment Jean Glavany, ancien chef de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée, Éric Orsenna et Catherine Ney, évidemment. Voilà pour le programme. D'abord le journal et toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lesquels il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère.
La mort à 79 ans du tueur en série Michel Fourniret, condamné deux fois à la perpétuité pour les meurtres de 8 jeunes femmes et adolescentes.
L'ogre des Ardennes meurt en emportant ses secrets. Les parents d'Estelle Mouzin ne sauront sans doute jamais où il a enterré leur petite fille.
L'enquête après la mort du policier Éric Masson à Avignon. 4 personnes en garde à vue à la veille de l'hommage national qui sera rendu aux fonctionnaires.
Le nombre de malades en réanimation repasse sous la barre des 5000. On n'en a pas encore fini tout de même avec l'épidémie, évidemment, bien sûr, mais tous les indicateurs sont au vert, nous dira Victor Delande.
Au procès de Nordal Le Landais, les experts décrivent un homme incapable de supporter la frustration, menteur, perverse et sans aucune culpabilité.
Et puis, si vous êtes à la recherche de vêtements vraiment uniques, on vous emmènera à la vente aux enchères de créations inédites signées du créateur, le grand Kenzo.
La Bourse de Paris, stable ce soir à 6385 points.
Et puis, la météo, Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Toujours des vigilances demain.
Oui, 5 départements du centre Est et du Sud-Est, toujours placés en vigilance orange, pluie, inondation pour les prochaines heures et la journée de demain. Demain, les pluies seront encore soutenues et orageuses. Les températures baissent encore. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on a donc appris cet après-midi la mort de l'un des plus grands tueurs en série français.
Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, s'était éteint à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il avait été hospitalisé ce week-end, Guillaume Bier.
Oui, son état de santé s'était encore dégradé au point que le tueur en série avait été une nouvelle fois hospitalisé en urgence dans un état critique, en insuffisance respiratoire. Son pronostic vital était engagé de manière irréversible, nous disait-on à la mi-journée, et à 15h, le décès de Michel Fourniret a été officiellement prononcé. C'est donc sur son lit d'hôpital que l'ogre des Ardennes, 79 ans, a succombé. Lui qui était déjà physiquement diminué depuis des années et qui souffrait aussi d'une maladie dégénérative, lui faisant notamment perdre la mémoire. D'où ses difficultés à répondre aux questions de la juge Kéris ces derniers mois et à faire avancer l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, qu'il a reconnu avoir tué, mais dont le corps n'a toujours pas été retrouvé. Michel Fourniret, l'incarnation de la perversité, le tueur aux formules alambiquées, emporte avec lui nombre de secrets criminels, car des soupçons pesaient toujours sur lui. Des comparaisons ADN sont d'ailleurs en cours pour savoir s'il pouvait être impliqué dans d'autres dossiers non élucidés. Ces réponses, les familles les attendent encore, mais le casier judiciaire de Fourniret ne pourra plus s'alourdir. Il aura donc été condamné deux fois à perpétuité pour 8 meurtres au total.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Vous évoquiez, Guillaume, le cas Estelle Mouzin. Vous avez joint l'avocat du père de la petite fille, maître Didier Seban, qui garde un souvenir glaçant du tueur en série qu'il a croisé à plusieurs reprises.
Quand on a croisé Michel Fourniret, on a le sentiment que l'humanité était sortie de son personnage et qu'il n'y avait que l'envie de faire mal. Vous savez, Éric Mouzin disait souvent « Je n'attends rien de Monique Olivier, rien de Michel Fourniret, mais tout de la justice ». Je crois que c'est ce sentiment-là, c'est-à-dire il y a le travail à faire, le travail doit se poursuivre, la recherche du corps d'Estelle doit se poursuivre. Et puis, évidemment, ça laisse beaucoup d'autres familles dans le silence parce qu'il y a eu d'autres meurtres, d'autres crimes sur lequel il n'aura pas à s'expliquer. Et donc, il y a un sentiment de colère. Et puis, cette idée qu'il faut en tirer des conséquences, il faut que ça change, il faut que la justice française, qui fonctionne comme au XIXe siècle, se dote maintenant de moyens, d'un pôle national sur les crimes non élucidés, et d'un pôle national sur les tueurs en série, pour qu'on arrête de fonctionner chacun dans son coin et ne résoudre que très peu d'affaires.
Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin et de plusieurs autres familles de victimes de Michel Fourniret. L'enquête sur la mort d'Éric Masson à Avignon la semaine dernière a donc progressé ces dernières heures avec l'interpellation hier soir de 4 personnes, dont le principal suspect.
Oui, Stéphane Frangy, vous êtes sur place. Le procureur vient de donner une conférence de presse pour évoquer brièvement les derniers éléments et les avancées de cette enquête.
Eh bien, le procureur Philippe Guémas est resté très prudent. Il confirme ce scénario de la tentative de fuite des suspects vers l'Espagne et l'étau qui s'est resserré autour d'eux depuis vendredi. Le procureur qui a surtout dévoilé le profil des 3 personnes interpellées sur ce péage autoroutier de l'Ouest avignonnais hier soir.
Je peux vous préciser que les 2 personnes interpellées et qui étaient recherchées sont toutes les 2 très jeunes, puisqu'elles ne sont âgées que de 19 et 20 ans, et que malgré leur jeune âge, ils ont tous les 2 déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le cas du conducteur du véhicule semble être quelque peu différent, puisque lui est âgé d'une 50aine d'années, et son rôle exact devrait être précisé par l'enquête.
Voilà, pas d'autres déclarations du procureur qui attend le développement des gardes à vue qui peuvent durer 48 heures maximum. Nous sommes en phase d'attente, a-t-il conclu. Nous devons d'abord recouper tout ce qui est dit durant ces auditions.
Stéphane François à Avignon pour Europe 1, où un hommage national aura lieu demain en présence du Premier ministre.
Oui, après 5 jours après la mort d'Éric Masson à Avignon, un tag visant clairement la police a été découvert aujourd'hui à Lyon.
Une inscription qui cible ouvertement la brigade spécialisée de terrain du 8e arrondissement de la ville et qui fait référence effectivement au drame d'Avignon. Dans ce contexte, Jean Castex saura-t-il rassurer les policiers? Le Premier ministre reçoit leur syndicat ce soir. Il faudra plus que des hommages. La colère est très forte. Jean Castex va notamment devoir évoquer la question de la réponse pénale. Beaucoup de policiers estiment que la justice ne suit pas. Ils réclament des engagements fermes.
2 semaines après un premier texte controversé, une nouvelle tribune attribuée à des militaires anonymes en activité, publiée dans Valeurs Actuelles.
Des militaires qui, cette fois, comparent le gouvernement et leur hiérarchie au régime de Vichy.
Oui, ça fait beaucoup de bruit. On en parlera avec nos débatteurs dans les grandes voix. La crise sanitaire, maintenant, est une confirmation. C'est une bonne nouvelle. L'épidémie recule nettement, Victor Delande.
Oui, moins 22% de contamination chaque semaine. On est actuellement à moins de 20 000 cas par jour en moyenne. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100 000 habitants, est de 192. C'est la première fois depuis mi-février que la France redescend sous la barre des 200. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises fin mars ont marché. Du côté des hospitalisations, ça chute également. Et le nombre de personnes en réanimation suit aussi cette tendance à la baisse. Moins de 5 000 patients sont actuellement en soins intensifs. C'est près de 700 en une semaine. On est sur la bonne voie donc. Et selon les projections de l'Institut Pasteur, si on continuait sur cette pente, on serait à 10 000 cas par jour le 25 mai et à 5 000 le 15 juin. Un seuil acceptable pour remonter efficacement les chaînes de contamination. Mais car il y a un mais, cette baisse et ces jolies projections sont conditionnées à une réouverture mesurée et encadrée. En gros, si les Français respectent bien les mesures d'espacement et continuent à appliquer les gestes barrières, ça ira. En revanche, si des centaines de personnes se ruent sur les terrasses sans rien respecter, l'été pourrait être plus compliqué.
Merci Victor Delon, spécialiste santé d'Europe 1. On rappelle que depuis ce matin, la vaccination est possible pour les 50 ans et plus et à partir de mercredi pour tous les majeurs, à condition de réserver la veille et puis uniquement s'il reste des doses. Et puis vous évoquiez effectivement un relâchement éventuel cet été. Et bien en Espagne, au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement appelle à la responsabilité après les scènes de liesse de fêtards sans masque ni distance.
Les sirènes retentissent ce soir à Jérusalem. Des salves de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Le mur des lamentations a été évacué. La Knesset également. Des avions civils ont aussi été détournés vers des aéroports annexes.
Et après un week-end de violence, de nouveaux affrontements aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Plus de 300 Palestiniens ont été blessés.
Et on rejoindra tout à l'heure la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem dans votre journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, dans la suite de votre journal, on évoque maintenant le procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer. Les experts psychologiques et psychiatriques à la barre aujourd'hui.
Marion Dubreuil, vous avez suivi cette journée d'audience, moment attendu de ce procès. On espérait y voir un peu plus clair sur la personnalité du maître chien de 38 ans.
Oui, pour les experts, Nordal-Lelandais est à l'abri de la culpabilité et de la honte. L'un des psychiatres qui l'a rencontré en avril 2018 explique l'avoir vu pleurer plusieurs fois. Mais pour le docteur Blacher, son émotion pour la petite Maëlys ou pour Arthur était feinte, pas celle pour la mort de son chien Tyrone. Son empathie se limite à sa famille et ses Malinois. Au départ, Nordal-Lelandais a bien tenté de passer pour un fou qui entendait des voix. Il a expliqué avoir vu quelque chose de monstrueux dans le regard d'Arthur Noyer, comme une hallucination. Les experts psychiatres n'y ont accordé aucun crédit. Les motivations du meurtre d'Arthur Noyer restent inconnues car l'accusé refuse de s'expliquer. Acte colérique ou sadique, s'interroge l'un des experts sans donner de réponse. Pour lui, l'accusé est à la recherche de sensations fortes pour combler un vide, oublier ses échecs. Si j'avais su qu'en redoublant ma quatrième, il aurait fallu que je consulte un psychiatre, je l'aurais fait, ironise l'accusé. L'accusé est décrit comme menteur, manipulateur. Pour les psychiatres, Nordal-Lelandais ne dissimule pas pour tenter de diminuer sa peine, mais c'est un mécanisme de protection. Il risque d'aller trop mal s'il livre trop d'éléments.
Marion Dubreuil qui suit ce procès devant la cour d'assises de Chambéry.
Malgré sa santé fragile, Bernard Tapie a tenu à assister à la reprise de son procès aujourd'hui.
Le procès en appel, c'est l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. L'homme d'affaires est apparu amaigri sous son masque, mais très attentif, échangeant régulièrement avec ses avocats. Il s'agit du volet pénal de l'affaire. Bernard Tapie est accusé d'escroquerie et de détournement de fonds publics.
Emmanuel Macron a présidé, lui, ce lundi à Paris, une cérémonie pour commémorer l'abolition de l'esclavage.
Une journée qui prend cette année un relief particulier, puisque la date coïncide avec les 20 ans de la loi Taubira, qui tend à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Allez, un peu de légèreté pour finir, on en a besoin. Avec cette grande vente aux enchères, quoique légèreté, ça dépend pour qui. Avec cette grande vente aux enchères en ce moment de création ayant appartenu au célèbre couturier Kenzo.
Pas pour le portefeuille, c'est vrai. En tout cas, ça se passe sur le site internet d'Arcurial, Diane Chenouda, et ce sont apparemment des pièces exceptionnelles.
Ah oui, on a des robes kimono, un long manteau rouge magnifique, des vêtements très japonisants, c'est vraiment l'esprit Kenzo, avec ses couleurs pop, ses imprimés fleuris, des pièces spectaculaires ici exposées. Clara Vivien est spécialiste mode chez Arcurial.
Mais oui, il y a des kimonos, effectivement des kimonos du soir, qui sont pas juste des kimonos d'intérieur et qui ont été travaillés de façon différente dans des matières qui d'habitude sont utilisées pour des smoking, par exemple du grain de poudre, du satin. Donc vraiment, on est sur des pièces très chic et qui ont été légèrement détournées, mais toujours avec ce savant mélange entre l'Orient l'Occident qui était très intéressant, le travail de Kenzo.
Des pièces d'autant plus fascinantes qu'elles n'avaient jamais été commercialisées.
Ce qui est très intéressant dans cette vente, c'est que c'est une collection qui n'a jamais été présentée au public, puisque c'est un projet de marque qu'il avait développé entre 2005 et 2008, qui avait été laissé en stand-by pour le moment et qu'on a retrouvé et découvert dans son appartement. Et pour nous, c'était une surprise incroyable de trouver ces pièces que nous n'avions jamais vues.
Une vente qui attire beaucoup de monde, comme cet habitué, fan de mode.
Je suis venue parce que Kenzo, c'est quand même un nom dans la mode qui restera toujours. C'est formidable de pouvoir acquérir une pièce, une belle pièce. En plus, ici, il s'agit de prototypes, donc ils n'ont pas été mis en fabrication dans des boutiques ou autres. Voilà, voilà pourquoi je suis venue.
150 créations en tout, qui sont donc en vente en ligne jusqu'à mercredi après-midi.
Merci beaucoup Diane Chenouda. Demain démarre également la vente de 600 objets d'art et de mobilier qui ont appartenu à Kenzo et aussi des peintures, parce que figurez-vous qu'il peignait Kenzo.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa, 5 départements en vigilance orange demain, attention.
Oui, il s'agit de l'Ain, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Ces 5 départements sont déjà placés en vigilance orange depuis aujourd'hui. Il pleut fort, on attend 4 à 6 semaines de pluie en tout sur ces départements. Donc bien sûr, les risques d'inondation sont importants, avec dès demain matin un temps toujours pluvieux. De l'Alsace à la Côte d'Azur sur toute la façade est, nous aurons des pluies soutenues sur le Lyonnais et la Corse. Des pluies accompagnées de coups de tonnerre sur les Alpes. La neige est de retour à partir de 2000 mètres d'altitude. Et puis partout ailleurs, on a un ciel qui alterne entre averses et éclaircies. Alors de la Bretagne jusqu'à la région parisienne en passant par la Normandie, là le temps est sec. Voilà, il ne va pas pleuvoir sur ces régions demain matin, mais dans l'après-midi, les averses vont se généraliser et elles vont concerner toutes les régions. À l'est, en Alsace et dans les Alpes, le temps reste très pluvieux. Dans les Ardennes, la Bretagne, la Gironde, la Provence et le Nivernais, les orages éclatent, ils seront localement forts. Et puis côté température, ça baisse encore demain, puisque demain c'est le début des Saintes-Glaces. Avec 6 à 10 degrés en général demain matin, nous aurons 6 à Caen, 8 à Rennes, 11 à Paris, 12 à Strasbourg et jusqu'à 15 degrés à Nice. Au meilleur de la journée, comptez 11 degrés pour Aurillac, 13 au Puy-en-Velay, 16 à Bordeaux et Dunkerque, 17 à Lyon, 18 à Paris et 20, la maximale, seulement 20 pour Marseille.
Oui, ça baisse, ça baisse.
Ouais, bien.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle est épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Bonsoir Catherine Hill.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Alors vous êtes connue pour votre analyse et votre franc-parler face à la réalité de l'épidémie. Un mot peut-être d'abord des chiffres. L'épidémie marque un net recul chez nous en France. 25% de contamination en moins sur la semaine écoulée. Nous sommes à environ 18 000 cas de contamination aujourd'hui jour. Et surtout, on est repassé sous le seuil symbolique qui reste élevé, mais le seuil symbolique des 5 000 patients en réanimation. Est-ce qu'on est sorti d'affaire ?
Pas tout à fait, parce qu'on est passé de 6 000 cas en réanimation à 5 000 cas en réanimation. Et ça, c'est encore absolument énorme.
Oui.
Et les hôpitaux ne peuvent pas faire
mais
la médecine.
Mais on sent que la décrue est amorcée.
La décrue est amorcée, mais c'est très fragile. Et si vous pensez que vers le 1er décembre, on a arrêté de faire très attention pour aller faire du shopping, et à ce moment-là, la tendance est inversée, et on est revenu à un plateau.
Oui.
Si on revenait à un plateau au niveau de contamination, on en est aujourd'hui, avec un peu moins de 250 morts par jour, ça serait vraiment assez catastrophique.
Oui.
Donc c'est très embêtant. On ne peut pas savoir si ça va continuer à baisser longtemps ou pas.
Je vous pose la question, Catherine Hill, parce qu'il y a 15 jours, vous jugiez que le déconfinement qui est amorcé chez nous en France est prématuré. Vous disiez, lever le pied, ça paraît complètement illogique. Est-ce que vous le pensez toujours ?
Oui, absolument.
Malgré ce net recul ?
Non, ce recul, il était prévisible parce qu'il y a eu les vacances, tout le monde s'est éparpillé, il y a eu moins de contamination. Mais dès qu'on va commencer à augmenter le nombre de gens qu'on croise,
oui,
la circulation, les terrasses, les coups dans les petites rues, à boire avec des copains, etc., le virus va se remettre à circuler.
Même avec le climat qui est aujourd'hui plus favorable et qui fait qu'on est quand même plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'on aère plus nos intérieurs, ce qui est a priori... permet d'évacuer le virus quand on est en lieu clos.
J'aimerais bien croire à ça, mais quand même, de toute façon, vous rentrez dans les magasins, vous croisez des gens à l'intérieur aussi,
oui,
au travail, etc. Donc le virus va continuer à circuler.
Donc pour vous, la réouverture des commerces, des terrasses, des lieux culturels, des lieux publics, en somme, le 19 mai, ça n'est pas raisonnable.
C'est très risqué.
C'est très risqué.
C'est très risqué.
Vous le pensez vraiment ?
Oui. Oui.
Il ne faut pas le faire, selon vous ?
De toute façon, depuis le début, j'ai dit que ce qu'il fallait faire, c'était de trouver les gens qui étaient contagieux avant qu'ils aient des symptômes, c'est-à-dire tester tout le monde.
Oui.
Personne n'entend ça parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible.
Oui.
Avec des prélèvements salivaires, tout le monde peut cracher dans un tube,
oui,
ça ne coûte pas cher du tout, et des tests groupés.
C'est ce qui se fait dans les écoles maintenant.
Oui, mais on fait dans les écoles, mais on ne fait pas dans toutes les écoles en même temps.
Mmh.
Donc, si vous testez cette école-ci, vous trouvez des cas, vous fermez les classes, vous ne testez pas cette école-là. Il y a des cas aussi, vous ne fermez pas,
oui,
ces classes-là. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on faisait des prélèvements, des tests PCR en groupant les prélèvements,
oui,
de tous les élèves de la classe dans un seul tube, on ferait un seul test PCR pour toute la classe et on irait énormément plus,
oui,
vite et on pourrait tester tout le monde. Et c'est comme ça qu'on pourrait tester toute la population, avec ces tests groupés.
La crainte des variants Catherine Hill, indien, brésilien, on en parle un peu moins en ce moment. D'abord, est-ce que l'on sait précisément combien ils représentent aujourd'hui dans la circulation du virus ?
On n'a pas des très très bonnes données en France, mais en gros quand même, le variant anglais représente à peu près 80%
oui,
de la
on
circulation.
On sait qu'il est majoritaire, mais celui qui nous inquiète beaucoup maintenant, c'est le variant indien, le variant brésilien,
le variant
sud-africain.
Indien, on n'en a presque pas. Du variant brésilien, la dernière fois qu'on a regardé, c'était 0,3%. Des variants sud-africains, c'était un peu plus.
Oui.
Mais en fait, pour l'instant, ces variants, globalement, le variant anglais occupe le terrain. Il est plus contagieux. Donc du coup, ça change le niveau de vaccination nécessaire pour empêcher le virus de
oui,
circuler.
Oui.
Mais à part ça, ça ne change rien. Les gens sont ni plus... Moi, je pense que les maladies ne sont pas plus graves.
Oui, oui. C'est un discours un peu à contre-courant que vous tenez ce soir, parce que c'est vrai que tous les clignotants sont au vert, en tout cas en apparence, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait ce matin « Je ne crois pas à la possibilité d'une troisième vague ». Vous vous dites « C'est possible ».
Ah oui, oui, c'est possible. En tout cas, ça va peut-être pas une vague qui va augmenter très très vite, mais que ça s'arrête de baisser, oui, ça j'y crois tout à fait.
Malgré la vaccination,
malgré
le taux de contamination, on a regardé le chiffre, 20% de la population majeure en France, selon l'Institut Pasteur, a été contaminée. Donc ce sont des gens qui sont a priori immunisés aujourd'hui.
Ah, 20% ont été... Oui, il y a 20% de la population qui a été protégée.
Oui.
Ça laisse 80% à risque
plus
de faire circuler. Plus les vaccinations.
Progresse.
On a vacciné quoi ? Quelle proportion des gens ?
17 millions de premières doses à peu près.
17 sur 67.
Et on en est à les 5 millions de secondes doses.
Bon, si on avait vacciné un tiers de la population, plus 20%, 30 plus 20%, ça ferait la moitié de la population serait
oui,
protégée. 20% parce qu'ils ont une Covid, 30% parce qu'ils ont été vaccinés, 50%, bah, ça laisse 50% de la population à risque d'attraper le Covid.
On nous avait dit pendant longtemps, Catherine Hill, il faudra atteindre 60% pour cette fameuse immunité collective. Aujourd'hui, on nous dit que c'est 80%, c'est ça ?
Alors, l'arithmétique est simple. Au début, quand le virus arrive, ce virus SARS-CoV-2 est arrivé, la dynamique a été la même dans tous les pays. La croissance, le nombre de morts s'est emballé très vite. Et on a estimé que chaque cas contaminait 3 cas. Si chaque cas contamine 3 cas, il faut que 2 sur 3 soient immunisés, soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont eu le Covid, pour que le virus, l'épidémie, cesse d'augmenter, parce que chaque cas tombera sur 2 cas protégés et 1 cas pas protégé. Si chaque cas contamine 1 cas, l'affaire ne s'emballe plus. Maintenant, les variants sont plus contagieux. On a dit que le variant anglais, et qui est maintenant 80% des virus qui circulent dans le pays, est 50% plus contagieux. Si chaque cas contamine 4,5 cas, alors il faut que 77% de la population...
C'est la raison pour laquelle il faut atteindre cette immunité collective à 80% maintenant.
Voilà.
Et on en est loin, c'est vrai.
Exactement.
Et on en est loin quand on regarde les chiffres.
Exactement.
Il y a un élément nouveau qui est apparu dans le débat public, que vous deviez connaître en tant qu'épidémiologiste, mais que nous, on n'avait pas conscience de cet élément-là. On peut être vacciné et transmettre le virus. Il y a eu des cas de clusters dans des EHPAD où tous les résidents étaient vaccinés. On peut continuer à avoir le virus, à être malade en étant malgré tout vacciné.
Aucun des vaccins ne protège à 100%.
Oui.
Dans les essais de vaccins, dans les meilleurs résultats, c'est avec le vaccin de Pfizer, mais les autres ne sont pas très loin derrière. Quand il y a eu 100 cas dans le groupe contrôle qui a été vacciné avec, qui a reçu du sérum physiologique, il y avait 5 cas dans le groupe vacciné.
Oui.
Donc ça ne protège pas, ça protège à 95%, ça ne protège pas à 100%.
Deux questions précises, Catherine Hill, sur la vaccination et la stratégie gouvernementale. À partir de mercredi, le gouvernement a lâché du lest en disant que toutes les personnes majeures pourraient prendre rendez-vous s'il reste des doses. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce qu'il fallait le faire plus tôt ?
Non, je ne pense pas qu'il fallait le faire plus tôt. Je pense que ça va dans le bon sens. De toute façon, la seule chose qu'on puisse faire, le problème de l'Union européenne, c'est que les doses arrivent dans chaque pays de l'Union européenne, au prorata de la population.
Oui.
On a le même nombre de doses pour 100 000 habitants que les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Allemands, etc.
Donc on ne peut pas aller plus vite.
Toute l'Europe. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et tant qu'on utilise toutes les doses, ça va.
Oui.
De toute façon, il faut utiliser toutes les doses qui arrivent. Et après ça, il vaut mieux évidemment vacciner les gens qui sont le plus à risque de tomber très malade et de mourir, plutôt que de vacciner des enfants de 15 ans ou de 18 ans qui vont avoir aucun symptôme.
Là, c'est le sens de ma seconde question. Parce qu'il y a des millions de doses AstraZeneca qui dorment aujourd'hui dans les frigos face à une défiance assez forte des Français. Est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à l'AstraZeneca à tous les Français, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait les Britanniques ?
Je pense que oui.
Il faut le faire.
Ça dépend. Tout ça, c'est une question de balance entre le bénéfice et le risque.
Oui.
Donc,
votre avis ?
Je pense qu'il faut pas, il faut se servir de toutes les doses. Donc, il faut trouver la stratégie qui permet d'utiliser toutes les doses qui sont là. Parce que, si vous êtes vacciné contre l'AstraZeneca, avec l'AstraZeneca, vous avez un risque infime de thrombose, mais vous allez aussi protéger. Vous vous vaccinez pour vous protéger, vous, et aussi pour faire barrage contre le virus.
Oui.
Donc, en fait, c'est une mesure aussi altruiste, la vaccination.
Le 19 mai, Catherine Hill, ce sera ma dernière question. Vous irez boire un petit apéritif ou prendre un déjeuner en terrasse ?
Oui.
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 Vous dites qu'il faut s'en méfier, mais vous irez quand même.
Oui, j'irai peut-être, oui.
Comme tous les Français, sans doute.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais on vit dangereusement.
On vit dangereusement. Merci, Catherine Hill, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
Le rappel des titres avec Isabelle Millet, 18h30.
Et la mort du tueur en série Michel Fourniret, à 79 ans. Il avait l'un des casiers judiciaires les plus lourds de France, condamné à deux reprises à perpétuité pour les meurtres de 8 jeunes femmes et adolescentes. Le procureur d'Avignon confirme que l'auteur présumé des coups de feu qui ont tué Éric Masson la semaine dernière a bien été identifié. 4 personnes en tout sont en garde garde à vue. Un hommage national sera rendu aux policiers demain en présence de Jean Castex et de Gérald Darmanin, le Premier ministre qui reçoit ce soir les syndicats de police. Après les drames de Rambouillet et d'Avignon, il réclame des actes et notamment des réponses adaptées de la justice. La vaccination contre le Covid-19 est ouverte depuis ce matin à tous les Français de 50 ans et plus. Et puis le mur des lamentations évacué ce soir à Jérusalem après des salves de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Le Hamas avait menacé un peu plus tôt d'une nouvelle escalade militaire si les forces israéliennes ne se retiraient pas de l'esplanade des mosquées.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 19h pour un journal complet. La météo, Anissa Dadi, les intempéries qui se poursuivent dans le sud-est demain matin.
Oui, nous avons actuellement 5 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation. Et ces 5 départements, l'Ain, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône, seront également placés en vigilance orange demain parce que nous avons une perturbation pluvio-orageuse qui est bloquée sur le centre-est et le sud-est. Donc ces départements sont au cœur de cette perturbation. Elle est forte hein, puisque les cumuls de pluie attendus sont importants. 4 à 6 semaines de pluie sur la journée d'aujourd'hui et de demain. Le risque d'inondation localisée est très important aussi. Demain, cette situation va se poursuivre avec donc de fortes pluies et des orages du Lyonnais jusqu'à la Provence. Les orages vont déborder aussi sur l'île de Beauté. Et puis sur la moitié ouest du pays, sur les autres régions, nous avons un temps variable avec une alternance d'averses et d'éclaircies. Mais demain, ce sont les averses qui vont l'emporter. On aura plus d'averses que d'éclaircies en effet. Les températures, 6 à 14 degrés demain matin du nord au sud. Ça baisse encore dans l'après-midi. Début des Saintes Glaces demain, 11 à 20 degrés. 11 pour Aurillac, 18 à Paris. Et 20 degrés la maximale pour Nîmes et Marseille.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Le débat des grandes voix du lundi avec ce soir, mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et Bruno Cotrèche, chercheur CNRS au CEVIPOF. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Julien.
Alors on commence par évoquer ensemble, si vous le voulez bien, les suites politiques. Après le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, Jean Castex reçoit tout à l'heure les syndicats de police. Le Premier ministre a déjà annoncé le déblocage de 10 millions d'euros pour sécuriser les commissariats. Et une marche citoyenne aura lieu d'ailleurs le 19 mai à l'appel des policiers. On écoute pour commencer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
C'est un message donné à tous ceux qui veulent s'en prendre aux policiers et aux gendarmes. On ne vous laissera jamais tranquille. Et en 4 jours, on a démontré qu'on ne laissera jamais tranquille les trafiquants.
Est-ce que la colère des policiers, Emmanuel Ducrot, peut se transformer en piège politique pour le gouvernement ?
C'en est déjà un piège politique.
Oui.
Je ne vais pas déflorer ce que va dire mon voisin tout à l'heure, mais le CEVIPOF est allé chercher dans ses sondages et montre que les intentions de vote pour le Front National des policiers et des militaires atteignent 60%. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais oui, c'est un piège parce qu'on a... un potentiel d'image absolument dévastateur si les policiers mettent leur casque à terre, si j'ose dire. C'est une corporation qui, depuis quand même déjà très longtemps, fait part de sa frustration de voir son travail saboté quand elle retrouve les délinquants dehors. Il y a un manque de moyens qui est criant. Il est temps de s'en préoccuper parce que les élections approchent. C'est une corporation qui se fait taper dessus par l'extrême gauche, qui est attendue à bras ouverts par l'extrême droite. Et qui, si elle lâche le pouvoir, c'est une déflagration possible. Donc oui, c'est un piège politique.
Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous révèle ?
Alors, on a collecté une série de données au CEVIPOF grâce à de grosses enquêtes qui permettent d'aller zoomer sur des sous-populations. Parce que souvent, sur les sondages classiques, on n'a pas assez d'individus pour aller détailler certaines professions. Et nous, on a beaucoup zoomé, en particulier les policiers. Les militaires aussi. Et on voit qu'effectivement, qu'on prenne ceux d'actifs ou ceux qui sont retraités, il y a quelques différences entre les deux. Mais globalement, c'est une population cible assez captive pour, on va dire, des formations politiques qui veulent incarner l'ordre, la sécurité, la dimension verticale.
Vous savez qu'il y a une forme de porosité chez les militaires aux idées du Rassemblement National. C'est le cas aussi pour les policiers.
Oui, bien sûr, c'est le cas
dans
aussi.
Dans quelle proportion ?
C'est le cas. Alors, c'est une, selon nos études, au cours de l'élection présidentielle de 2017, on était quelque part entre 40 et 50% d'intention de vote pour la candidate du Rassemblement National.
Un policier sur deux
pratiquement,
qui vote
pratiquement,
Marine Le Pen.
Voilà, pratiquement. Alors, il y avait des nuances en fonction de ceux qui étaient actifs ou ceux qui étaient retraités, mais donc une possibilité effectivement pour le Rassemblement National de s'appuyer sur certaines catégories de population. Il faut voir aussi qu'il y a un autre piège pour le gouvernement, c'est pas seulement le piège de s'aliéner une partie des électeurs, en particulier les policiers. Il y a un autre piège, il y a une problématique qui est importante, qui est celle du rapport entre la police et la population. C'est quelque chose qui concerne beaucoup la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur Il consacre beaucoup d'attention. La police avait été portée à un sommet de popularité après les attentats de 2015.
Oui.
Et après la crise des Gilets jaunes, il y a eu quelques, on va dire, quelques moindres popularités. Et aujourd'hui, on est, d'après nos études à nous, on est autour de 69-70% de popularité pour la police. Mais dans certaines sous-catégories de la population, je pense en particulier aux jeunes qui vivent en Île-de-France notamment, il y a un vrai enjeu pour la police de retisser le lien.
Alors ça, c'est pour la photographie générale. Et merci de nous révéler ces sondages et les études du CEVIPOF. Que peut faire maintenant Charles Villeneuve, concrètement, le gouvernement? Parce qu'il y a une réunion importante tout à l'heure autour de Jean Castex avec les syndicats de policiers qui va les recevoir à Matignon. Alors, le Premier ministre a déjà annoncé, je le disais, 10 millions d'euros qui seront débloqués pour la sécurisation des commissariats. Il y aura aussi la généralisation des caméras piétons, le renforcement pénal grâce à la fameuse loi sécurité globale. Que peut faire de plus le gouvernement?
En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont donc déboursé 10 millions d'euros pour... Ça, c'est la solution classique. Dès qu'il y a un malaise avec les syndicats, en réunion, on donne de l'argent. Ou alors, solution alternative, on décide de renforcer l'arsenal répressif.
Oui.
Notamment pénal. Donc, c'est encore une autre affaire. Là, le garde des Sceaux, bien qu'il ait pas mal de distractions, va certainement être saisi de ce type d'opération.
Il sera là, d'ailleurs, tout à l'heure, à la réunion.
Pour moi, ça ne sert à rien.
Oui.
Strictement à rien, parce qu'aujourd'hui, le problème... Et le piège politique a changé de nature.
Oui.
Parce que le chasseur, le policier, devient chassé. C'est tout à fait différent. La situation est très irruptive dans les rangs de la police. Et il faudra faire très attention à la manière dont ce gouvernement, qui jusqu'à présent n'a jamais projeté une image de d'autorité, notamment sur le plan régalien, devra trouver d'autres solutions, d'autres mots pour justement les rassurer. Alors, comment faire? D'autant plus qu'il faut quand même observer que, pour moi, le ministre de l'Intérieur a pris une décision, notamment de stratégique, de donner un coup de pied dans la fourmilière de la mécanique de drogue qui va bien au-delà, vous voulez, de l'interception simplement du deal. Tout le monde se s'apesantit sur les points de deal. Ça va beaucoup plus loin, notamment sur les réseaux d'alimentation et les réseaux de remontée non seulement de la coke, du kiff, de l'hache, qui, si vous voulez, viennent de régions dont toute l'économie est sous-tendue par le trafic.
Alors, c'est un élément d'explication, mais c'est peut-être un peu court que dire que la violence contre les policiers est exacerbée parce que le gouvernement fait bien son job. On verra si...
Non, ce n'est pas ce que je veux dire.
Si, vous avez dit...
Non, pas du tout.
Je dis que
en déclenchant cette stratégie, il est bien évident qu'il a titillé, qu'il a agacé les producteurs de drogue et qu'il trouve des petites mains pour aller monter évidemment sur les cibles policières.
Oui.
Et il est normal que les policiers à ce moment-là se retrouvent dans une position différente de celle qui est la leur dans un pays sécurisé.
Alors je voudrais qu'on parle dans un instant, on marque une première pause, des conditions de travail et puis de la réponse politique. Il y a les intentions, mais il y a la réalité aussi de ce que peut annoncer le gouvernement. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite des grandes voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Bruno Cotrès du CEVIPOF et Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Alors, on parlait à l'instant de la réponse que peut apporter le gouvernement face à ce malaise policier qui monte. Et puis, il y aura cette mobilisation très importante, citoyenne aussi, le 19 mai, jour d'ailleurs de déconfinement de la France avec les réouvertures des lieux publics. On évoquait les moyens. C'est vrai que ça peut paraître pas grand-chose, 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité dans les commissariats. Mais il y a quand même un élément, puisqu'on parle de considération aussi de la part des politiques et de l'exécutif vis-à-vis des policiers, de considération aussi de la part de l'opinion publique. La revalorisation des salaires. Est-ce que nos policiers sont suffisamment payés? Ils gagnent 1500, 1600, peut-être en fin de carrière 2000 euros pour nous protéger au quotidien. C'est un peu comme les soignants. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de reconsidération qui peut passer aussi par la rémunération?
Mais clairement, pour ce métier, pour ces métiers-là, question de revalorisation, de reconsidération, effectivement. Les policiers, c'est un corps de fonctionnaires qui s'est engagé pour arrêter des méchants, pour rendre service à la société, qui vit cet engagement comme une mission absolument sacrée au service de la société et qui trouvent qu'ils n'en sont pas payés de retour très souvent, soit des fois par l'opinion publique, soit effectivement en termes de rémunération. Il y avait eu un sujet il y a plusieurs années qui sans doute n'est pas complètement terminé, qui était celui du paiement d'heures supplémentaires.
Oui.
Alors on a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, Mais il y a clairement un double enjeu. Il y a l'enjeu, effectivement, sans aucun doute, des carrières des policiers. Et puis, il y a aussi cet enjeu qui est l'enjeu de considération et de prise en compte de la difficulté de ces métiers. Ce sont des métiers très exposés, très difficiles. Beaucoup de policiers ont été les victimes de crimes abominables depuis quelques années.
Absolument.
Et le moral, globalement, des forces de police, on le sait, n'est pas très bon.
Non, mais je pose la question parce qu'aujourd'hui, les politiques s'émeuvent de la façon dont, à juste titre d'ailleurs, dont les policiers sont pris pour cible, cette barrière qui n'existe plus face à certains délinquants, à certains jeunes, à certains dealers. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tous une part de responsabilité avec du matériel qui est parfois défaillant, des voitures de police qui ne fonctionnent pas ou très peu, des commissariats qui sont dans un état déplorable, des salaires qui ne sont pas suffisants, une formation qui est insuffisante? Est-ce que les politiques n'ont pas aussi une part de responsabilité tout de même?
Je pense qu'il y a vraiment... C'est multifactoriel ce malaise de la police. Il y a effectivement la question des rémunérations, il y a la question du respect de leur travail, c'est-à-dire la question de toute la chaîne pénale. Il y a l'enquête et puis il y a les suites pénales. Et ça, clairement, ça dysfonctionne parce que la justice non plus n'a pas assez de moyens. Oui. Parce que les prisons sont pleines. Voilà. Et puis, il y a aussi la défense de l'image. Là, on est dans le symbole. Les policiers, il y a eu un moment, ça n'allait déjà pas très bien, et il y a eu une rupture au moment des gilets jaunes. On les a envoyés
faire... De la loi travail avant ça.
De la loi travail.
La violence avec ce policier qui avait été...
Exactement.
Presque brûlé vif, en tout cas sérieusement blessé.
Et donc ils ont
blessé.
Été, je pense, ils ont eu l'impression d'avoir été mal défendus par l'État. Et quand votre vitrine sécuritaire va mal, ça montre aussi la faiblesse de l'État et le fait que l'État perd les rênes. Et ils ont le sentiment d'avoir été en quelque sorte lancés comme de la chair à canon face à des gens qui finalement leur ressemblent. Parce que les gens qui étaient face à eux, les gilets jaunes, c'était des gens du même... milieu socio-culturel, si vous voulez.
Oui.
Et ça a vraiment marqué une rupture, c'est-à-dire ce sont des gens qui, jusque-là, et jusqu'à une époque récente, avaient quand même une légitimité dans la population et qui ont le sentiment d'en avoir perdu une part et de ne pas avoir été défendus par ceux qui les envoyaient au casse-pipe.
Alors c'est vrai que la réponse pénale est au cœur de ce débat, justice laxiste ou pas, c'est un débat qui monte aujourd'hui en France. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé. Il nous faut continuer, dit-il, d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution. Le président d'ailleurs qui concède qu'il y a, oui, une violence plus importante aujourd'hui dans la société. Mais alors, quand on regarde ce que prévoit le code pénal, les textes sont là, s'ils étaient correctement appliqués. Un individu qui agresse un policier ou un gendarme, c'est de 3 ans de prison, parce qu'il y a une circonstance atténuante, de 3 ans de prison à la perpétuité, pardon. À la perpétuité.
Oui, mais là,
Charles Villeneuve.
Oui, mais si vous voulez, moi j'ajouterais...
On n'arrive pas à appliquer les oui, textes qui sont là.
Mais non, parce que d'abord, il n'y a pas assez de place. Ensuite, de toute façon, il y a une gestion des gens, des individus qui sont condamnés assez, si vous voulez, discontinue, en quelque sorte. Parce que aussi bien les JAP que les JLD, les juges d'instruction, etc., sont complètement dépassés. Il manque de tout, des greffiers. C'est une réalité. Et c'est la raison
pour
laquelle...
C'est pour ça que les policiers disent on met quelqu'un en garde à vue, puis il ressort le lendemain alors qu'il devrait être condamné.
Et alors, ce que ressentent, pour ajouter à ce que vous venez de dire, quand vous discutez avec de jeunes policiers, ça a été mon cas durant les manifestations du 1er mai. Bon, j'ai été parler avec un certain nombre d'entre eux. D'abord, ils sont exaspérés par l'attitude des politiques qui, chaque fois, font semblant de découvrir tout d'un coup leurs problèmes.
Oui.
Ça les exaspère de manière extraordinaire. Et puis, eux-mêmes vous disent, il y a un vrai problème sur le plan de l'autorité et d'irrespect par rapport à nos fonctions d'autorité.
Oui.
Ce qui est vrai pour nous, aussi bien des professeurs, aussi bien des parents, aussi bien... Donc c'est un vaste sujet, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit.
Oui.
Il ne suffit pas de 10 millions d'euros pour protéger simplement le commissariat, même si, évidemment, il s'agit de ne pas les refuser. Mais ça va bien au-delà. C'est dans les profondeurs de la société dans laquelle nous vivons que se situe le problème.
Alors, parmi les pistes qui sont sur la table, parce qu'il va quand même falloir que le gouvernement apporte des solutions, Bruno Cotterêts, il y a sur la réponse pénale, la fin de l'automaticité des remises de peine pour ceux qui s'en prennent à des policiers ou des gendarmes, l'instauration de peines minimales, ce sont les fameuses peines planchers, et puis les peines incompressibles, les mandats de dépôt à l'audience et le travail notamment sur les mineurs. Ça peut fonctionner parce que ça ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique, ça.
Ah non, clairement, ce sont des politiques publiques qui se mettent en œuvre sur un moyen terme, on ne va pas dire un long terme, en tout cas sur un moyen terme, et qui demandent un arsenal non seulement de mesures, mais aussi de moyens. Parce que si on applique davantage les peines, si les peines sont conduites davantage en prison, il y a les problèmes de la place dans les prisons, bien évidemment.
Oui.
Il y a aussi le problème de l'accompagnement de ceux qui sont en détention. Donc il y a effectivement une panoplie de politiques publiques qui doivent se réorganiser autour de cette problématique de la sécurité, notamment de moins exposer les forces de l'ordre ou de davantage, en tout cas, exécuter les peines.
Bien.
Donc c'est vrai que les moyens sont des moyens qui, sans aucun doute, sont sur des moyens pluriannuels, qui n'ont pas seulement comme horizon les mois qui arrivent, mais c'est effectivement quelque chose qui va au-delà, sans aucun doute, des échéances de 2022.
Alors j'ai dit, pardon tout à l'heure, circonstances atténuantes, je voulais dire évidemment circonstances aggravantes, ma langue est fourchée. On marque une seconde pause, 18h47, on se retrouve dans quelques secondes, et on pense évidemment à tous ces policiers et gendarmes qui font un boulot absolument formidable. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat des grandes voix avec toujours Charles Villeneuve, Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, et Emmanuel Ducroux, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Alors, je voudrais qu'on évoque ensemble cette tribune anonyme de militaires d'active, publiée par Valeurs Actuelles, qui dénonce des concessions faites à l'islamisme. La guerre civile couve en France, écrivent-ils. On ne sait pas combien ils sont, ni qui ils sont, ce qui a provoqué d'ailleurs l'ire du ministre de l'Intérieur.
C'est ça le courage d'être anonyme ? En démocratie, c'est le peuple qui décide. C'est ça le courage d'être anonyme ? C'est une grossière manœuvre d'impression qu'il y aurait ici des radicaux qui pourraient aider le Front National à gagner les élections. Quand on veut être courageux, on donne son nom. Quand on est militaire, on ne fait pas ce genre de choses en cachette à la petite semaine.
Voilà, réaction à l'instant de la ministre des Armées, Florence Parly, qui parle de grossière machination politique. Il a raison dans ce qu'il dit, selon vous, Bruno Cotrès, le ministre de l'Intérieur. Ils auraient dû publier leur nom. Parce que c'est vrai que ça pose la question de d'abord, combien de militaires sont derrière ? Qui est derrière ? La ministre réagit en parlant de machination politique. La question peut faire débat, tout de même.
Oui, bien sûr. Elle fait débat, en fait. Les militaires ont, sans aucun doute, des obligations de réserve, d'abord qui sont celles de l'ensemble des fonctionnaires, mais peut-être ont-ils des obligations supplémentaires, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'anonymat pose toujours cette question. Celui qui dénonce quelque chose de manière anonyme a toujours sa parole, on va dire, un peu plus limitée. On va toujours moins regarder et moins considérer la parole de celui qui s'exprime, voire qui proteste sous couvert d'anonymat, qu'une personne qui affiche clairement et qui prend son risque.
Oui.
On va dire, là, il y a un autre problème aussi, qui est quand même, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Il y a quand même l'hebdomadaire aussi qui publie. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans un cadre un peu plus général d'une démarche, on va dire, de cet hebdomadaire Valeurs Actuelles qui pilonne quand même un peu sur ce thème de l'ordre public et qui, avec toujours une tonalité dans le contenu de la tribune, qui dresse le portrait d'une France qui décline, qui va mal. C'est un peu crépusculaire, même des fois. On a le sentiment que le danger est à nos portes. Et donc, c'est vrai que ce qui est gênant, c'est effectivement que cet anonymat ne permet pas de prendre au sérieux ce qui peut-être doit être pris au sérieux. Si au sein de l'armée française, en ce moment, il y a un malaise aussi, il y a un souci, c'est peut-être intéressant de l'écouter, mais peut-être pas dans ces conditions-là.
Emmanuel Ducroux, est-ce là je relève ce que disait Gérald Darmanin, le rôle d'un militaire de sortir de sa réserve, de prendre position politiquement, alors qu'un militaire est au service de la France, a priori, pas d'une opinion ?
Mais c'est ça qui est intéressant et très ambigu à la fois dans cette tribune, c'est que ce sont des militaires qui parlent, et ce n'est pas l'armée, et ce sont des militaires qui ne parlent pas de la chose militaire, mais qui parlent de politique. Donc en fait, on peut dire que ce sont des citoyens militaires au sein d'une institution, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui exactement, donc ça crée un climat plus qu'une réalité. Enfin, on n'est pas en train de parler de gens qui vont faire un putsch, on est en train de parler de citoyens qui utilisent le prestige de l'uniforme pour faire pression sur le débat politique.
Oui.
C'est toute l'ambiguïté de cette tribune.
Mais c'est inédit au sein des armées, dans l'actualité récente, avec des mots quand même très forts. Hein. Je l'ai sous les yeux, cette tribune, et je l'ai lue. Ils parlent, d'abord, ils critiquent ceux qui ont critiqué la première tribune des militaires. Ils parlent de lâches, de fourbes, de pervers. voilà, ce sont des mots forts. Ils parlent du cri d'alarme de nos anciens. Et alors, ils font un comparatif, pardonnez-moi, mais tout de même qui pose question, avec les résistants de 1940. Des gens comme vous traités de factieux, eh bien, à l'époque aussi, ils étaient traités ainsi. Ce sont les poilus de 14, écrivent-ils, qui mouraient pour quelques mètres de terre. Charles Villeneuve, ça suscite l'interrogation, tout cela, tout de même.
Alors, moi, je pense que là, pour avoir discuté avec un certain nombre de ces militaires, d'actifs, jeunes lieutenants, capitaines, la deuxième tribune est la résultante de la gestion maladroite, je peux même dire calamiteuse, de la ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées. Pourquoi ils ont décidé d'être anonymes? Pour éviter la chasse à l'homme, qui s'est enclenchée avec la promesse d'un tribunal, en quelque sorte, pour punir les généraux, qui sont 53 maintenant d'ailleurs, de la première, pétition. Et la surréaction de la ministre a engendré cet anonymat. Alors,
oui, mais l'armée, ce n'est pas les réseaux sociaux quand même.
Oui, et bien justement, vous vous trompez. Parce que de plus en plus, tous ces jeunes militaires, des sous-officiers, des officiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous, on rentre d'Afghanistan, du Sahel et d'autres théâtres opérationnels extérieurs. Et puis, on fait des missions de sentinelles. Et on vous dit, surtout, vous n'allez pas dans ce quartier parce que ce n'est pas la peine de les exciter. C'est difficile. Vous allez provoquer certainement des heurts, etc. Donc, eux vous disent, en tout cas c'est ce descriptif qu'ils font, c'est que finalement on a assisté à l'effondrement de tout un système dans les pays où nous allons, y compris en Afrique.
Oui.
Bon, et nous revenons ici et nous voyons quasiment les mêmes ingrédients qui sont en train d'être non pas dans les villes au centre des villes, mais à la périphérie des villes, là où nous habitons, là où vivent nos familles,
ça,
etc.
C'est ce qu'ils disent dans la tribune,
et donc c'est ça la réaction.
Oui.
Parce que dans les mots que vous choisissez, vous avez choisi les plus pervers, les plus vicieux,
etc.
Mais il y a quand même 3-4 lignes que vous devriez lire qui sont intéressantes et qui illustrent mon propos, ce que je viens de dire.
Oui. Oui, oui, mais ça l'est. Nous avons été en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique. Un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol.
C'est ça qui veut le dire.
La France n'est pas le Mali encore, rassurez-moi.
Non, mais le Mali, vous connaissez le Mali? Vous y êtes allé en opération au Mali? Bon, ben, le Mali, à tous les coins des chemins du désert, vous ne trouvez pas de toute façon effectivement des djihadistes. Mais simplement, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'eux se sont approchés des zones qui sont délicates et on leur a interdit même d'y aller pour ne pas provoquer de heurts. C'est ce qui les a choqués. Je rapporte leurs témoignages. Bien. Ils sont quand même intéressants.
Merci Charles Villeneuve. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les débats, les grandes voix du lundi. Je vais y arriver. Merci à vous.